Ce matin, on va regarder, au lieu d'un passage, d'habitude, avec la prédication expositoire, on prend un passage, mais ce matin, on va regarder un personnage de la parole de Dieu. Donc, on va sauter ici et là, dans les versets de la Bible, mais plutôt dans le livre des Actes. Donc, si vous voulez vous préparer, vous pouvez ouvrir vos Bibles au livre des Actes. Et j'invite notre équipe de commencer à projeter les versets pour vous aider si vous ne voulez pas continuer à sauter dans vos Bibles. Je voudrais poser une question un peu bête, parce que je sais que ça arrive à tout le monde. Avez-vous jamais connu l'échec? Avez-vous jamais failli? Lorsqu'une fois on a essayé et échoué, on ne veut pas faire un deuxième essai. On voit dans les écoles que souvent les élèves qui échouent au bac, ils ne reviennent pas pour un deuxième essai. Et alors leur vie sont marquées par cet échec. Souvent une relation, un mariage, un divorce, une entreprise qui fait faillite. Ce sont des événements qui marquent une vie. On voit souvent les gens qui ont succombé et sont descendus dans un état dépressif. Mais comment récupérer d'un échec? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les modèles de la Bible qui peuvent nous aider? Comment éviter que notre vie soit marquée, même caractérisée par l'échec? Ce matin, on va regarder un personnage du livre des Actes, peu connu. J'enseigne un cours biblique à Marseille et nous venons d'étudier le livre des Actes. Et j'ai trouvé cette histoire très encourageante. L'histoire ne se trouve pas dans un seul passage, mais on va mettre ensemble toutes les pièces du puzzle pour le voir. Cette histoire s'agit d'un jeune homme de Jérusalem nommé Jean. Il est le neveu de Barnabas. Il était un juif de Jérusalem. Lui et sa mère étaient membres de cette église persécutée. Nous commençons notre histoire dans le livre des Actes, chapitre 8. Nous trouvons qu'après la mort d'Étienne, tous les croyants ont été dispersés. Vous vous souvenez que le jour de Pentecôte, il y avait 3000 membres convertis dans cette église. Et ensuite, cette église a grandi jusqu'à 5000. Mais après la mort, le meurtre d'Étienne, tous les croyants ont été dispersés, chassés hors de Jérusalem, par la persécution qui a éclaté. En Actes chapitre 1, nous lisons, « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Cette grande église qui avait 5000 membres, un méga church, une méga église, n'est plus, c'est évaporé. Et cet événement, c'est presque la même chose qui arrive dans ce monde aujourd'hui. Nous voyons, surtout en Syrie, avec cette guerre civile qui s'éclate, il y a des gens qui sont obligés de partir, de quitter leur pays, de devenir les réfugiés. C'était la même chose à Jérusalem, sous la persécution dirigée par Saul. Dans un sens, cette communauté chrétienne s'est évaporée. Oui, un petit noyau a resté à Jérusalem, mais c'était les apôtres. Donc c'est probable que Jean-Marc et sa mère se sont convertis sous le ministère des apôtres qui restaient à Jérusalem. Il y avait une petite église de maison chez eux. Et nous trouvons que c'était là que Pierre s'est rendu après avoir été libéré de prison par un ange de Dieu. Vous vous souvenez que le roi Hérode a fait tuer Jacques, l'apôtre Jacques, Et lorsqu'il a vu que ça a plu aux Juifs, il a emprisonné aussi Pierre. Mais Dieu l'a délivré, et nous lisons en Actes chapitre 12. Pierre se dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc nous trouvons ici, dans ce passage, que Jean était membre de l'église à Jérusalem avec sa mère. Et maintenant, on doit parler un peu de Barnabas, l'oncle de Jean-Marc. Vous vous souvenez de Barnabas, je crois. Nous le retrouvons en Actes chapitre 4, versets 34 à 35. Il était un des premiers croyants. À Jérusalem, un des premiers à aider cette grande foule de pèlerins qui se sont convertis le jour de Pentecôte. Nous lisons au chapitre 4, verset 34, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. » Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, il vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ce Barnabas était un homme généreux, un modèle pour les autres. Et ensuite, il est devenu un des principaux enseignants de l'Église. Il était envoyé à Antioche, dans cette nouvelle Église, pour aider à enseigner, pour former ces nouveaux convertis qui se trouvaient dans cette nouvelle Église. Là, il a trouvé que le travail était trop important, et donc il a appelé pour Paul, qui se trouvait à Tarse. Et les deux se trouvaient dans l'église à Antioche. On n'a pas besoin de le regarder, mais à la fin du chapitre 11, nous trouvons que l'église à Antioche, quelques 100 kilomètres au nord de Jérusalem, ils ont envoyé une offrande pour secourir l'église à Jérusalem. Et ils ont confié cet argent entre les mains de leurs deux enseignants, Paul et Barnabas. Et nous retrouvons notre jeune homme en chapitre 12. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Donc Saul et Barnabas, ils sont descendus de Antioche à Jérusalem, ils ont confié cet argent à l'église pour aider cette petite église persécutée au milieu de Jérusalem. Et ils repartent pour Antioche, et ils amènent avec eux le cousin de Barnabas, Jean-Marc. Et la suite de notre histoire continue à Antioche. Donc maintenant, on va sauter en chapitre 13. Au chapitre 13, versets 1 à 5, nous voyons, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par l'Esprit Saint, descendirent à celui-ci, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Donc ces deux premiers missionnaires de l'Église envoyés sous l'autorité de l'Église à Antioche, ils voyagent dans l'île de Chypre pour évangéliser. Donc Jean-Marc part avec eux comme stagiaire, un jeune homme qui pourrait les aider. Et c'est bien de le faire exposer au ministère. Mais plus tard, nous trouvons la suite. Cette équipe de trois hommes a traversé l'île en proclamant l'Évangile. Maintenant, ils se préparent à continuer le voyage. Ils prennent un bateau, ils traversent la mer jusqu'à la ville de Pergé, qui se situe aujourd'hui en Turquie. Et nous lisons en Actes chapitre 13, verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Pergé en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc ici, nous voyons que Jean-Marc, il en avait assez. C'était peut-être le premier voyage, était un peu trop difficile. La vie itinérante, un peu trop difficile. Peut-être les gens de Chypre étaient trop difficiles. Mais peut-être il se moquait de sa maman, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a abandonné Paul et Barnabas, qui ont dû continuer leur voyage missionnaire sans quelqu'un pour les aider. Sautons maintenant à chapitre 15, nous trouvons Paul et Barnabas de retour. Ils ont fait leur premier voyage missionnaire, ils ont parcouru un peu qui est Turquie aujourd'hui. Ils sont de retour à Antioche. Ils ont rendu compte à cette église de tout ce que Dieu a fait. Et en verset 35, nous lisons, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole de Dieu, du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans cette œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. C'est un peu troublant cette histoire, n'est-ce pas? On voit cette équipe. Paul et Barnabas, âmes sœurs, les meilleurs amis, compagnons dans le travail, dans l'œuvre du Seigneur. Et ce dissentiment fut assez vif pour causer la séparation. D'accord? Si tu veux prendre Jean-Marc, vas-y. Je vais prendre Silas. Je vois Silas, il est mieux que Jean-Marc. Non, Barnabas, je ne veux pas. Non, il nous a abandonnés, ça ne va pas. Mais Paul, Barnabas, non! Et on voit, c'est troublant cette histoire. Deux hommes de Dieu, deux pasteurs, qui font un dissentiment entre eux. Pour Paul, une seule foi suffit. Pour Barnabas, Jean-Marc était sa famille. On ne peut pas abandonner la famille. Donc ils sont repartis pour l'île de Chypre. Et d'ici, nous perdons de vue Barnabas. On n'entend plus de son ministère. Et Jean-Marc, On peut imaginer ce jeune homme, il voit Paul et Barnabas en train de disputer à cause de lui. Imaginez la honte. Imaginez l'impact sur les pensées de Jean-Marc. L'équipe se fonde à cause de lui. La première fois qu'il est parti, il a retourné à Jérusalem. Imaginez la honte qu'il portait lorsqu'il entre à l'église. Et les gens disent, tu es déjà de retour? Ah oui. Et Paul et Barnabas, ça s'est bien passé? Je ne sais pas. Mais qu'arrive-t-il? Je ne sais pas. Mais pourquoi tu n'es plus avec eux? Vous savez, c'est un peu compliqué. Mais Jean, tu les as abandonnés? Oui, quelque chose comme ça. Pourquoi tu es revenu seul? Où sont-ils, Paul et Barnabas? Et ensuite, après la séparation de Paul et Barnabas, les murmures qui l'entourent. On entend les gens à l'église, ils disent, c'est qui ce jeune homme? Ah, ça c'est Jean-Marc, le pauvre. Mais pourquoi? Ah, vous savez, il a provoqué la division entre Paul et Barnabas. Paul et Barnabas se sont séparés. Oui, c'est à cause de ce jeune. Il avait des problèmes. C'est lui qui a tout provoqué. Est-ce que vous pouvez vous identifier avec Jean-Marc? À cause des échecs, est-ce que vous portez des marques de faillite? La honte, la culpabilité d'une faillite, les stigmates d'un échec. Je crois que c'est une question bête que j'ai posée parce que je crois que nous avons tous connu les échecs, n'est-ce pas? Souvent à cause de cela, les vies sont marquées et on porte une culpabilité cachée. Quel est le modèle que Dieu nous donne dans la vie de Jean-Marc? Qu'est-ce qui est arrivé après sa faillite? Qu'a-t-il fait? A-t-il abandonné l'œuvre de Dieu? Ça suffit, c'est trop difficile pour moi. Est-ce qu'il a été mis à côté, mis à l'écart, hors service? Je déteste ce mot. On voit toujours le mot, les petites placards hors service, ça arrive toujours, on les voit toujours au moment que tu en as besoin de quelque chose, n'est-ce pas? Station de service, la voiture, le réservoir est presque vide et vous arrivez devant les pompes, hors service. Les distributeurs de billets, ah oui, je n'ai plus d'argent à... hors service. Et on les voit, est-ce que Jean-Marc a porté cette placard hors service? Utile pour rien? Est-ce que vous avez jamais eu ce sentiment d'être hors service? Si nous feuilletons dans nos Bibles quelques livres et quelques années plus tard, nous retrouvons notre jeune homme. C'est dans la lettre que Paul a écrite à l'église à Colosse. C'est la seule église dont Paul a écrit une lettre qu'il n'a jamais visitée. Et il conclut sa lettre avec les salutations et il écrit en chapitre 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Cette lettre a été écrite par Paul lorsqu'il était en prison à Rome, et il parle de Jean-Marc. Ils se sont réconciliés, et maintenant nous voyons Jean-Marc à côté de Paul. Feuilletez encore un peu plus loin, jusqu'à la lettre de Philémon. à Philémon. Et dans les versets 23 à 25, nous trouvons concord. Jean-Marc est avec Paul. Il écrit en verset 23. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Ainsi que Marc, Aristarque, Déma, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Nous y trouvons encore Jean-Marc au service de Jésus-Christ. Vous savez que Paul était le chef d'une petite œuvre missionnaire. Il avait quelques jeunes autour de lui, et Paul était le grand évangéliste. Mais il ne pouvait pas être partout. Donc il avait un nombre de jeunes hommes, des stagiaires, on peut dire, autour de lui. Et nous lisons souvent leurs noms. Silas, Timothée, Aristarque, Épaphras, Luc et d'autres. Et ici, Paul les appelle mes compagnons d'œuvre. Et qui est le premier mentionné ici? Marc. Jean-Marc, c'est le premier mentionné ici. Encore un peu plus loin. Dans le Nouveau Testament, la dernière lettre de Paul, adressée à Timothée, pasteur à Éphèse, nous trouvons ceci. Paul, toujours en prison, il a dit, « Viens au plus tôt vers moi, car Déma m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ici, nous trouvons Jean-Marc à côté de Timothée, toujours à côté des hommes de Dieu. Et à la fin de sa vie dans une prison romaine, l'apôtre Paul a demandé son disciple bien-aimé, Timothée, de venir lui rendre visite et lui demande d'amener Jean-Marc, car il m'est utile pour le ministère. Paul était abandonné par plusieurs lorsqu'il était emprisonné. Il avait envoyé les autres de son équipe ici et là pour encourager les églises. Vous vous souvenez que Éphèse était une grande église. Paul a passé 2 ans en Éphèse. C'était une église bien fondée, bien établie. Et nous voyons ici, de tous les hommes disponibles dans cette église, Paul a demandé qui? Jean-Marc. Celui qu'il avait abandonné il y a quelques années avant. Ce n'est pas seulement que Jean n'était pas marginalisé, mais nous voyons valorisé par celui qu'il avait abandonné. Et nous voyons une transformation ici à 180 degrés. Jean-Marc était une faillite. Allô? Jean-Marc était une faillite. Il est parti dans le premier voyage missionnaire avec les plus grands apôtres. Et après un mois, il a tout abandonné. Et dans un sens, c'est lui qui a provoqué la séparation de Paul et Barnabas, la meilleure équipe missionnaire de leur époque. Mais cette faillite, Jésus-Christ l'a transformée en réussite. Dieu lui a donné une deuxième chance. Par sa grâce, Dieu l'a réconcilié avec ceux dont il a déçu. Comment c'est arrivé? Quel est le modèle que Dieu nous donne dans la vie de Jean-Marc? Qu'est-ce que Jean-Marc a fait pour être utile pour le ministère? Nous y trouvons 4 éléments clés. Je ne sais pas s'ils sont sur le PowerPoint aussi. Non, peut-être pas. Le premier point, qu'est-ce que nous voyons dans sa vie? Il s'est donné au service de Jésus-Christ. Oui, son premier essai était un échec, mais il avait un désir de continuer à servir son Seigneur. Deuxièmement, il a persévéré. Il n'a pas baissé les bras, il n'a pas dit « c'est trop difficile, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas mon don spirituel ». Il n'a pas dit « non, je ne veux pas ». Il a développé un désir profond d'aller jusqu'au bout. En Proverbe 24, verset 16, nous lisons « car à cette reprise, le juste peut tomber et il se relève ». Jean-Marc a bien tombé, mais il s'est relevé. Il n'a pas laissé une seule faillite déterminer le chemin de sa vie. Et après son premier échec, il est reparti avec Barnabas à Chypre. Il s'est relancé. Troisième, il a cherché la compagnie des hommes de Dieu. Il s'est attaché à ceux qui étaient les bras forts de l'Église à cette époque-là. Il a cherché ceux qui avaient une connaissance profonde de Dieu, ceux qui avaient une connaissance intime de Jésus-Christ. Et il se colle à eux. Nous l'avons vu à côté de Barnabas, à côté de Paul, à côté de Timothée. Maintenant, on va continuer à feuilleter dans nos Bibles. Et vers la fin de du Nouveau Testament, nous lisons en 1 Pierre chapitre 5, verset 13. À la fin de cette lettre écrite par l'apôtre Pierre, nous lisons « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » Nous y trouvons Pierre à Rome et à ses côtés, Jean-Marc. Alors nous y constatons que Jean-Marc a passé du temps aussi avec Pierre. Et Pierre, le chef des apôtres, l'appelle « mon fils ». Mon fils. Ça parle de quelqu'un bien connu, quelqu'un de très cher. Et je crois, lorsque je lis ce passage, je crois que c'est même Pierre qui a amené Jean-Marc à Jésus-Christ. Parce que vous vous souvenez, le seul qui restait à Jérusalem, c'était des apôtres, parmi lesquels se trouvait Pierre. Et maintenant, nous voyons Pierre appelle Jean-Marc mon fils. Et je crois que ça parle d'un fils spirituel. C'est Pierre qui a partagé l'évangile avec Jean-Marc. Jean-Marc a gagné la confiance et le respect de Pierre et de Paul, les deux grands apôtres de Jésus-Christ. À la fin de la vie de Paul, nous apprenons qu'il était aussi avec Timothée, toujours attaché aux hommes de Dieu. Je voudrais lire 2 Timothée chapitre 2, verset 2. C'est un verset que vous connaissez bien, je crois. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Donc ici nous voyons, il y a quatre générations, l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre à Timothée. Donc Paul, cet enseignement, ce message, l'évangile a été transféré de Paul à Timothée, aux hommes fidèles et aux autres. Et je crois que Jean-Marc, qui était à côté de Timothée aussi. Jean-Marc était un de ces hommes fidèles auxquels Timothée a transféré tout ce que Paul lui a enseigné, tout ce qu'il a entendu de Paul. Avez-vous jamais failli? Si votre vie a connu l'échec, faites-vous comme cet jeune homme Jean-Marc. Si votre vie est marquée par l'échec, ne le laissez pas déterminer le chemin de votre vie. Vous voyez ce matin la leçon et le modèle que Dieu nous donne dans la vie de ce jeune homme. Et ça commence par une vie donnée à Jésus-Christ. Deuxièmement, si vous êtes un croyant, levez-vous et persévérez en Jésus-Christ. Donnez votre vie au service de votre Sauveur. Troisièmement, attachez-vous aux hommes ou aux femmes de Dieu. Passez du temps avec eux, avec ceux qui connaissent mieux la Bible. Posez des questions. Nous connaissons toute cette phrase. Vous serez comme ceux que vous fréquentez. Donc, attachez-vous aux voyous et vous devenez un voyou. Attachez-vous aux hommes et des femmes de Dieu et vous devenez encore un homme, une femme de Dieu. C'est pour cela que nous sommes ensemble ce matin, pour être ensemble à côté des autres qui nous encouragent. Il y a quatre éléments aussi. Quatre éléments clés dans la vie de Jean-Marc. Cherchez à connaître Jésus-Christ de plus en plus profondément. Nous voyons que ce jeune homme, Jean-Marc, a consacré sa vie à connaître Jésus-Christ et de le faire connaître. Il s'est consacré à connaître tous les détails de la vie de Jésus, tous les miracles, tous les enseignements, tous les paraboles. Comment savons-nous ceci de Jean-Marc? Dans les versets que nous avons lus, on ne parle pas beaucoup de cela. Comment nous savons que Jean-Marc a consacré sa vie à connaître Jésus-Christ dans tous ses détails? Vous avez lu son livre, n'est-ce pas? Son évangile, qui s'appelle l'évangile de Marc. C'est ce jeune homme ici, Jean-Marc, qui a créé l'évangile de Marc. Cet échec, cette faillite, Dieu l'a transformé en réussite. Voici l'histoire de celui qui a écrit l'évangile de Marc. Un jeune homme qui a consacré sa vie à connaître Jésus-Christ. Dans tous les détails, il a écrit un livre pour le transmettre aux autres. Et nous connaissons le livre de Marc. L'évangile de Marc comme un livre d'action, il parle des actes de Jésus. Il y a peu d'enseignements, peu de paraboles, mais beaucoup d'actions. Et je crois qu'il a écrit son évangile surtout pour les jeunes, parce que c'est les jeunes qui aiment l'action, n'est-ce pas? Les jeunes n'aiment pas les longs enseignements, ils aiment l'action. Donc voici une vie transformée par Jésus-Christ. Consacré à sa connaissance, attaché aux hommes de Dieu, une faillite devenue une réussite. Et le travail qu'il a fait en écrivant son livre, son évangile, a transformé la vie des milliers en présentant Jésus-Christ comme le Sauveur. Ah oui, ça c'est une vraie réussite, n'est-ce pas? Une grande histoire de la grâce de Dieu et de son travail dans la vie d'une personne tombée dans l'échec. Et Jésus-Christ cherche à faire la même chose avec vous. Jean m'a dit que vous êtes en train de regarder le livre de Marc. Donc j'espère que cette petite histoire de ce jeune homme, l'auteur de ce livre, va vous encourager. Parce que celui qui a écrit ce livre a commencé sa vie chrétienne par l'échec. À la fin de sa vie, il était à côté et appelé utile pour le ministère. Que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole. Amen.